France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La République de Weimar, une utopie démocratique. On nous dit très souvent que la République de Weimar roulait à tombeau ouvert vers son terminus, qui ne pouvait être que Hitler, qu'on vient d'entendre, mais c'est peut-être un lieu commun et c'est sans doute une idée fausse. La fin de l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. La République allemande, d'après la Première Guerre, est certes née handicapée, mais couvée dans une petite ville idyllique où soufflait encore l'esprit de Goethe. Elle manifestait des intentions fécondes en matière constitutionnelle, diplomatique, mais aussi sociale. Cependant, elle se heurta à l'hostilité irréductible de ceux qui, dès le départ, étaient hostiles à l'idée démocratique. Et c'est à eux, et on les trouvait à tous les extrêmes de sa vie politique et intellectuelle, qu'il faut d'abord imputer l'échec de Weimar. Johann Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Je disais que vous considériez peut-être Weimar comme une époque plus roborative qu'hostile, et puis elle s'incarnait, cette époque, au départ, en tout cas, dans une petite ville où vous avez des attaches, vous enseignez à Grenoble, mais à Weimar.
Oui, je fais partie du conseil scientifique des rendez-vous l'histoire de Weimar, que l'on organise depuis 3 ans. On en est à notre 4e édition désormais. Weimar, c'est un petit bijou d'art, de culture et de concentration d'histoire. C'est vraiment le cœur de l'Allemagne, dans cette Thuringe rurale. Mais Weimar, c'est la patrie de Goethe, de Schiller, de Liszt, de Wagner, Bach, Beethoven. Enfin, ils y sont tous passés.
Mais commençons, Johann Chapoutot, si vous le voulez bien, par les grandes villes en effervescence. À la fin de la guerre, nous sommes à l'automne 1918, prise de conscience d'un côté du caractère proche et inéluctable de la défaite et de l'autre, signal de départ de la révolution qui est donné par l'extrême gauche allemande. Qu'est-ce que c'est l'extrême gauche des grandes métropoles à la fin de 1918 ?
Alors, ce sont des soldats et des ouvriers qui sont là de la guerre, puisqu'on est en guerre depuis 4 ans. 2 millions de morts déjà sur le front, et puis 1 million de morts civiles dus au blocus, dus au boycott de l'Allemagne, qui fait mourir des Allemands donc, à l'intérieur. Donc, grande lassitude des ouvriers et des soldats. Et également, l'extrême-gauche, c'est une extrême-gauche politiquement organisée, puisque dès 1914, une partie de la gauche fait sécession, puisque les sociodémocrates votent les crédits de guerre en 1914, contrairement à ce que l'Internationale avait prévu, c'est-à-dire qu'en cas de guerre, on se dresserait, toutes les social-démocraties du monde se dresseraient comme un seul homme contre la guerre, puisque la seule guerre qui soit, c'est la guerre de classe, pas la guerre internationale, qui est un trompe-l'œil pour tromper les ouvriers et les prolétaires. Et donc, malgré ce, les social-démocraties avaient voté les crédits en Allemagne, en France. Et c'est contre cela que se crée une ligue, la Ligue Spartacus, dès 1914. Et ensuite, il y a une plus grande scission au sein du SPD, la scission entre SPD majoritaire et SPD indépendant, création de l'USPD, donc, en 1916.
Alors, c'est par ces dissidents du SPD et l'aile activiste, les Spartakis, que s'étend l'insurrection qui gagne de ville en ville, jusqu'à Strasbourg. Mmh. 10 novembre, Strasbourg est encore allemande et le drapeau rouge flotte au-dessus de la cathédrale et donc du côté de ce qui reste de l'Empire, beaucoup de craintes.
Oui, vous avez une succession de mutineries qui se déclenchent à l'automne 1918, en octobre 1918, après l'échec de la grande offensive, la dernière grande offensive stratégique lancée par l'état-major allemand à l'été 1918. L'état-major est conscient que la guerre est finie, que l'outil militaire allemand est à bout de souffle, que la société civile ne suit plus à cause du blocus, à cause des morts, à cause du deuil. Et les soldats n'en peuvent plus, tout simplement. Donc vous avez eu un grand phénomène de mutinerie en France en 1917. Ce phénomène touche l'Allemagne en octobre 1918.
Ultime chancelier de l'Empire, le prince Max de Bade décide d'un même mouvement de demander l'armistice le 11 novembre 1918 et de passer le relais, d'une façon plus ou moins légitime, aux socialistes, mais les majoritaires, ceux du SPD, et au premier chef, à Ebert, leur leader, qui sera le premier fondateur de la République de Weimar.
Camarades, citoyens, soldats, soyez les bienvenus dans votre patrie à laquelle vous avez tellement manqué. Vos Vos sacrifices sont historiques et vos exploits sans pareil. Aucun ennemi ne vous a vaincu. Croyez-moi, nous n'avons pas perdu la guerre. Vous qui avez tous vaillamment affronté l'horreur, que ce soit dans la craie des falaises de Champagne, les marais insalubres des Flandres et les régions les plus froides de toute la Russie, vous avez éloigné de vos femmes et enfants, de vos parents, le feu de la guerre meurtrière. Non ! Jamais on n'a connu une telle réussite. Grâce à vous, nous sommes libres. Vous êtes l'espoir de cette trêve historique. Et chacun d'entre vous est dès aujourd'hui l'un des artisans de notre avenir. Il est l'heure de déposer les armes.
C'est un documentaire sur l'Allemagne de 1918, récemment diffusé sur Arte et signé Bernd Fischerauer. C'est un homme énergique, Ebert, qui s'adresse là à ses concitoyens, les camarades, en leur disant « Vous n'avez pas perdu la guerre ». C'est un ouvrier, c'est lié, permanent syndical.
Oui, il est né à Heidelberg au 19e siècle. C'est un fils d'ouvrier, ouvrier lui-même, qui a été apprenti et qui a franchi toutes les étapes de l'appareil social-démocrate, on va dire, jusqu'à devenir le président du Parti social-démocrate. Et la vie politique de Ebert, c'est une véritable tragédie, parce qu'il se trouve jouer là un rôle à front renversé avec tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a défendu auparavant. Alors certes, il a voté les crédits de guerre, mais en 1918, il accepte le pouvoir un peu malgré lui, par sens des responsabilités et par patriotisme aussi, puisque les sociodémocrates sont des patriotes effrayés par ce qui se passe au niveau international.
Et par hostilité au principe bolchevique, parce que de l'autre côté, les spartakistes proclame une république à la soviétique et dont l'objectif est assez rapidement la dictature du prolétariat.
Ça, c'est un épouvantail pour les sociodémocrates. Il faut voir qu'à l'automne 1918, on est un an après la révolution bolchevique et qu'un an après, en Russie, c'est la guerre civile, c'est la famine, c'est l'intervention étrangère. Bref, c'est un véritable cauchemar à envisager pour l'Allemagne. Donc, les sociodémocrates disent qu'ils vont prendre le pouvoir pour éviter ce sort à l'Allemagne. Et de fait, ils se trouvent faire alliance avec l'état-major militaire et le document qu'on vient d'entendre, c'est un document essentiel. C'est un discours du 10 décembre 1918 que Ebert prononce lorsque les troupes rentrent à Berlin, les troupes rapatriées du front rentrent à Berlin. Et le texte de ce discours a été largement écrit par l'état-major militaire lui-même. « Vous êtes rentré invaincu », dit Ebert.
Alors l'état-major va soutenir le SPD de Ebert, mais les marins qui sont chargés de protéger le Conseil des commissaires du peuple, le gouvernement provisoire, eux sont sur la voie de la mutinerie et à la fin du mois de décembre. Donc il y a deux républiques, une de type soviétique et puis une autre, celle d'Ebert qui sont face à face à Berlin, et celle d'Ebert se trouve extrêmement démunie de moyens au point de songer à partir.
La situation à Berlin est intolérable. Nous sommes dans l'incapacité de gouverner normalement. Pas une seconde de calme dans les rues. Dès aujourd'hui, il faut transférer le gouvernement à Weimar.
Berlin est totalement soumis au règne de la rue, des spartakistes, des criminels, des fous dangereux.
L'impertinence et la division des marins qui sont censés nous protéger dépassent l'entendement.
Messieurs les membres du gouvernement, j'ai fait fermer les portes et couper les lignes téléphoniques. Beaucoup de nos camarades sont morts, abattus par la contre-révolution. Jusqu'à ce jour, on a refusé de nous verser notre solde, mais nous voulons notre argent avant demain, la veille de Noël.
Quittez vos quartiers au château, remettez-nous les clés et je vous promets que vous serez payés.
Vous devez payer tout de suite ou nous prenons le pouvoir.
Dans ce cas, prenez notre place au gouvernement. Et demain, les alliés viendront nous envahir. Je vous en prie, prenez ma place.
Tout ce qu'on veut, c'est notre solde.
En sait-on beaucoup sur la force réelle des spartakistes, en tout cas à Weimar, où le gouvernement va s'installer, avec le premier parlement élu en janvier 1919, il y a des alliés pour le SPD, des alliés politiques.
Oui, des alliés que le SPD s'est trouvé dès 1917, puisque la motion de paix blanche qui a été votée au Reichstag à l'initiative du SPD a rallié les libéraux et a rallié le Zentrum, c'est-à-dire le parti du centre catholique. Et ce sont ces trois partis qui vont s'allier, SPD, libéraux et Zentrum, pour former ce que l'on appelle la coalition de Weimar, c'est-à-dire les trois partis qui, lors des élections du 19 janvier 1919, vont recueillir 75% des voix et des sièges.
Alors les premières élections qui sont vraiment en Allemagne au suffrage universel général. Et c'est pas rien, ça.
25 ans avant la France. C'est-à-dire que les femmes obtiennent le droit de vote en 1919, pour la première fois, 25 ans avant la France, puisqu'il faudra attendre 1944. Et d'ailleurs, lors de son discours inaugural de l'Assemblée constituante, le 6 février 1919, qui est un immense discours, un discours bouleversant d'ailleurs, le président Ebert commence en disant « Mesdames et messieurs, Et il dit « Je salue tout particulièrement les femmes qui, pour la première fois, sont présentes dans une telle enceinte. »
Alors, femmes d'extrême gauche, femmes du SPD, femmes du Zentrum, des associations catholiques. Il est devenu président, la Constitution se met en place. Et cette Constitution, est-ce qu'elle est présidentielle ou est-ce qu'elle est parlementaire? Qu'est-ce qui reste des morceaux de la monarchie dans la Constitution républicaine de Weimar?
Alors la Constitution, l'élaboration de la Constitution, c'est un travail de compromis, mais on penche plutôt vers le libéralisme au sens politique du terme, puisque la Constitution, l'esquisse est confiée à Hugo Preuss, qui est un juriste et qui est un membre du Parti libéral, qui a rédigé l'architecture générale de la Constitution de Weimar, qui crée un régime parlementaire. C'est le Parlement qui gouverne, comme aujourd'hui d'ailleurs toujours en Allemagne. En France, on estime qu'un régime parlementaire ne marche pas, c'est faux, puisque ça marche très bien en Allemagne. Et le compromis, c'est qu'il y a face au Parlement un président élu au suffrage universel direct. Donc on se retrouve en Allemagne en 19, dans la situation de la Seconde République en France en 1848-49. Assemblée et président élu au suffrage universel avec des légitimités concurrentes. Et l'autre problème, c'est qu'on donne, en cas de problème, en cas de péril pour la patrie et pour l'État, on donne à ce président élu la possibilité de saisir les pleins pouvoirs par décret, tout simplement, sur le fondement de l'article 48 de la Constitution.
Alors ces leçons seront apprises par la Deuxième République allemande après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une République sociale aussi à bien des égards. La naissance de la cogestion, le pouvoir très grand donné aux syndicats dans la Deuxième République allemande, celle d'aujourd'hui, il faut la situer dans la première, dans celle de Weimar.
Absolument. C'est-à-dire que pour tenter de mettre fin aux troubles sociaux et aux mutineries en série de l'automne 1918, le Conseil des commissaires du peuple, présidé par Ebert à l'automne, suscite et encourage des négociations entre employeurs et employés, négociations syndicales qui aboutissent aux accords historiques du 15 novembre 1918 qui créent la participation, qui créent ce qu'on appelle la Mitbestimmung en allemand, c'est-à-dire la participation des ouvriers au gouvernement de l'entreprise, plus la journée de 8 heures tout de même. Et un mot tout de même quand même, la création d'une république, c'est pour l'Allemagne une revanche prise sur la victoire continue de la contre-révolution tout au long du 19e siècle. Victoire en 1815, en 1849, etc. Enfin, on crée une république.
Communauté de raison, peut-être utopie, qui se heurte au réel. Alors le réel, c'est bien connu, c'est l'obligation dans laquelle est la République de Weimar débutante d'accepter le traité de Versailles et les humiliations qui s'en suivent. Le vote a lieu à Weimar le 22 juin 1919. Ensuite, le Parlement quitte à l'automne 1919 la petite ville qui vous est chère, Johann Chapoutot, et retrouve l'agitation des villes qui est très grande. On va entendre tout au long de cette émission des extraits de L'œuvre du serpent, le film de Bergman qui se situe en 1923 et dont l'un des principaux protagonistes est un commissaire de police qui garde la mémoire de l'Empire et de l'ordre qui alors régnait dans les villes.
La France a occupé la Ruhr, nous venons de payer 1 milliard d'or à la Grande-Bretagne. Et dans les chantiers, on trouve partout les bolcheviks, l'agitation. Nous avons un gouvernement qui ne sait sur quel pied danser. Tout le monde a peur. Rien ne marche comme il faut, si ce n'est la peur. Ce vendredi, je voulais aller à Stettin voir ma vieille mère, elle va avoir 80 ans. Mais pas moyen de trouver un horaire de chemin de fer. Vous imaginez une Allemagne sans horaire de chemin de fer? Hein? Alors que fait le commissaire Bauer? Le commissaire Bauer fait son travail. Il essaie de mettre un petit peu d'ordre et de raison au milieu du chaos. Et il n'est pas le seul, Rosenberg. Dans toute l'Allemagne, des millions et des millions de petits fonctionnaires tout aussi terrifiés font exactement comme lui.
Des petits fonctionnaires qui ne sont pas républicains et qui voient quand même avec effarement une Allemagne plus petite de 7 millions d'habitants et une Allemagne où ne fonctionnent pas les trams à Berlin et où le pouvoir est exercé par ceux qui en étaient exclus. Les catholiques que détestait Bismarck, les socialistes que détestait Bismarck, les juifs qui sont pour l'un d'entre eux l'initiateur de la Constitution.
Oui, alors il y a deux choses dans cet extrait. D'abord, la référence à l'occupation de la Ruhr et au traité de Versailles. Il faut voir que le traité de Versailles, c'est une balle qui est logée dans la nuque de la République de Weimar dès sa naissance. C'est-à-dire que, aussi bien le maréchal Foch lors des négociations d'armistice que Clémenceau lors de la conférence de Versailles, aucun n'a pris en compte le fait qu'il fallait aider cette jeune république, cette jeune démocratie, cette première démocratie allemande à s'installer. Et la deuxième chose, c'est dans cet extrait, c'est effectivement la rémanence de l'ancien régime chez les fonctionnaires. fonctionnaires. Alors là, il est question des petits fonctionnaires, mais il faut aussi parler des hauts fonctionnaires. L'élite de la République reste l'élite de l'Ancien Régime, formée sous l'Ancien Régime, socialisée sous l'Ancien Régime. Et la République de Weimar, enfin le nouveau pouvoir, SPD en l'occurrence, ne va jamais opérer une purge ou un nettoyage de la haute fonction publique. C'est une erreur. Il y avait un moment où le pouvoir pouvait le faire, c'était après l'échec du putsch de Cap en mars 1920. Mais la SPD n'a pas voulu aller aussi loin.
Les putschs, il y en a beaucoup, et certains sont sérieux, comme celui que vous citez, plus important que le putsch de la brasserie de de Hitler. Et puis il y a les violences politiques. Dans le film L'œuf du serpent, le commissaire, il est chargé d'éclaircir une série de meurtres. Alors les meurtres peuvent être le fait de meurtriers en série ou d'extrémistes. Les assassinats politiques sont légion.
Oui. Alors 400 assassinats politiques à peu près, hein, entre 1919 et 1923.
400,
dont les deux tiers, voire les trois quarts, sont le fait de l'extrême droite. Une extrême droite, c'est-à-dire des survivances des corps francs qui se sont organisés en organisation secrète et qui abattent systématiquement tout ce qui ressemble à un libéral, à un juif, à un communiste. Bon.
L'assassinat de Rosa Luxembourg avait donné le branle au début 1919. Mais il y a aussi l'assassinat du ministre des Affaires étrangères, carrément.
Rathenau. C'est l'assassinat de Rathenau, c'est en juin 1922, ça va être un véritable traumatisme parce que Rathenau était très apprécié sur le spectre politique allemand et ça va donner lieu au vote d'une loi, le vote de la loi de protection de la République, mais on parlait des élites tout à l'heure, les juges qui ont été formés sous l'Empire vont appliquer cette loi très ferme contre les assassinats politiques à l'encontre de l'extrême gauche et non pas de l'extrême droite. En gros, quand vous êtes d'extrême droite et que vous commettez un assassinat, vous en tirez avec 7 mois ferme ou quelques mois avec sursis. Quand vous êtes d'extrême gauche, c'est en moyenne 15 ans de réclusion criminelle ou la peine de mort.
22, l'assassinat de Rathenau. 23, l'occupation militaire de la Ruhr. Et puis, la crise économique qui est restée dans les mémoires par le phénomène de l'inflation. Alors, pourquoi y a-t-il eu inflation ? Parce que la production est en baisse, la consommation est en berne.
C'est un phénomène européen, hein, puisque tous les pays d'Europe se sont endettés pendant la guerre, et singulièrement l'État allemand ne s'est pas financé par une politique fiscale rigoureuse, mais par l'endettement, hein, les emprunts de guerre. Autrement dit, la République de Weimar hérite de la faillite de l'Empire. Et on le voit à plusieurs indicateurs. D'une part, l'explosion de la dette de l'État et par ailleurs également l'inflation de la masse monétaire de billets de banque. C'est-à-dire qu'on passe de 2 milliards de marques masse monétaire à plus de 50 milliards en 1919. Donc l'État allemand a financé son déficit par la planche à billets, tout simplement par la création de masse monétaire. Donc la République de Weimar hérite de cette inflation qui va devenir une hyperinflation en 1923 dans le contexte de l'occupation de la Ruhr, puisque la production est désorganisée et comme le gouvernement décrète la résistance passive, le gouvernement doit financer la population de la Ruhr.
On comprend mieux les pratiques allemandes d'aujourd'hui dans la crise financière de 2010-2011. Il y a logé au plus profond de la mémoire le cauchemar du surendettement et puis l'idée que c'est un scandale que les épargnants perdent pendant que les endettés deviennent de nouveau riches. Le film de Bergman, toujours l'œuf du serpent, va reconnaître la voix dans le récitant, c'est le regretté Maurice Garrel.
Nous sommes à Berlin, 3 novembre 1923. Le paquet de cigarettes coûte 4 milliards de marques. Et la plupart des gens ont perdu toute foi en l'avenir et aussi bien dans le présent. Mardi 6 novembre. Les journaux suintent la peur, la menace, les rumeurs. Le gouvernement semble impuissant. Un affrontement sanglant entre les partis extrémistes paraît inévitable. Malgré tout, les gens vont travailler. La pluie tombe sans arrêt. Et comme une buée, la peur fuse des pavés. On en sent l'odeur âcre. Chacun la porte en soi comme un poison des nerfs. Un poison à action lente. Aux uns, elle accélère ou ralentit le pouls. Aux autres, elle donne des spasmes de nausée. Le matin du mercredi 7 novembre, le lait est introuvable à Berlin. Beaucoup de magasins d'alimentation restent fermés. Ils n'ont rien à vendre. Le Reichsmark n'existe pratiquement plus. C'est au poids que l'on compte désormais les liasses des billets et non plus à leur valeur vénale.
Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein durch die Löcher der Kletage kickte Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt endlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Augenass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr blau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Johann Chapoutot, La République de Weimar, notre thème aujourd'hui. La chanson, vous dites, l'élégie du chômeur de Ernst Busch. Nous sommes là un peu plus tard, bien après la crise de 1923, et en fait après la crise de 1929. Mais vous dites que c'est une utopie démocratique, la République de Weimar, Johann Chapoutot. Il y a eu une période, à partir de 24-25, de redressement.
Oui, alors ça tient au changement de gouvernement et à l'arrivée sur le devant de la scène politique d'une nouvelle figure qui s'appelle Gustav Stresemann, qui résout le conflit avec la France. La France a enfin compris que l'occupation de la Ruhr était inepte du point de vue même des réparations. L'inflation est jugulée.
Les États-Unis ont aidé la France à comprendre aussi.
Par des pressions amicales. Mmh. Et l'inflation est jugulée par la création du Rentenmark.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un nouveau mark?
Oui, c'est ça. C'est un nouveau mark qui remplace l'ancien, donc vous échangez quelques milliards de trillions d'anciens marques contre un nouveau marque. Ça stabilise la situation financière. Et puis l'Allemagne retrouve sa place dans le concert des nations dont elle avait été exclue de manière tout à fait inique en 1919, puisque le traité de Versailles, c'est le seul traité international qui a été négocié sans les vaincus. Donc l'Allemagne est réintégrée par la habileté de Stresemann. C'est la période bénie du couple Stresemann-Briand, hein, le premier couple franco-allemand, au fond, avec le traité de Locarno, avec l'entrée de l'Allemagne à SDN, avec le double prix Nobel de la paix pour Briand et pour Stresemann. Et sur le front intérieur, une stabilisation économique, une reprise de la croissance et la fin de l'inflation.
Et sur le front extérieur, même un rapprochement avec l'URSS.
Oui. Oui, alors ça, c'est un...
De la part du SPD.
C'est avant 1923, c'est en 1922, hein, le traité de Rapallo, c'est l'association des deux bannis, des deux parias de la scène internationale, qui aboutit à une coopération militaire d'ailleurs entre l'armée rouge et la Reichswehr.
Alors, réconciliation, vous avez cité le nom de Stresemann, qui n'appartient pas au SPD, qui est beaucoup plus à droite, ça ne va pas quand même suffire pour qu'il trouve grâce aux yeux de ce brillant polémiste français qui en appellera bien d'autres, je veux dire, Léon Daudet.
Si vous voulez savoir où en est vraiment l'esprit allemand, relisez avec soin le discours dans lequel récemment Stresemann attestait l'esprit pacificateur de Bismarck. De ce Bismarck qui, selon son secrétaire Busch, se repentait un jour devant témoin entre sa pipe et ses dogues de la responsabilité de trois guerres, celle de Danemark et du Schleswig, celle d'Autriche, celle de France. Pour Stresemann, comme pour tout Allemand patriote, comme pour tout philosophe et pour tout historien allemand, toute guerre menée par l'Allemagne est en vue de la paix, en effet. Mais entendons-nous bien, de la paix allemande, après le choc du 21 mars 18, Hindenburg se cuidant déjà vainqueur, annonçait à un journaliste suisse l'établissement d'une forte paix allemande, Pax Germanica. Dans l'esprit de Stresemann, duc de Locarno et comte de Thoiry, la paix, la vraie paix, c'est le retour à l'Allemagne de tout ce que lui a enlevé le traité de Versailles, c'est aussi le rattachement de l'Autriche dans le Schluss.
Toujours le même type de diatribe qu'on retrouve d'ailleurs peut-être aujourd'hui, quoi qu'elle fasse, L'Allemagne, ennemi inexpiable.
Oui, alors il faut bien voir que Léon Daudet est un polémiste d'extrême droite, c'est un des piliers de l'Action française, germanophobe, nationaliste. Et l'assimilation à Bismarck, au fond, c'est censé être une insulte dans la bouche de Léon Daudet, mais c'est en fait un compliment. Puisque Bismarck, contrairement à ce que l'on disait à l'époque et ce que l'on entend encore aujourd'hui très bêtement de la part de certains responsables politiques, Bismarck est un génie de la paix. Une fois qu'il a fait l'Empire, après 1871, c'est l'homme qui a veillé à ce que plus jamais aucune guerre ne se déroule sur le sol européen. Et il y a réussi. C'est ensuite Guillaume II qui a tout gâché. Mais Bismarck avait créé un système européen qui préservait certes l'intérêt et l'existence tout simplement de l'Allemagne, mais qui ne cherchait noise à personne. C'était un pacificateur, Bismarck, et un génie de la paix. Oui.
Beaucoup de touristes français ne partageaient pas le point de vue de Léon Daudet qui allait à Berlin, qui était une capitale extrêmement attirante. C'était le premier âge d'or de Berlin. Nouvel âge d'or, c'est maintenant qu'on pense aux messieurs de la maison Gallimard qui aimaient les messieurs.
Ich bin die beste Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die beste Lola, ich liebe jeden Mann. Doch an mein Pianola, da lasse ich keinen ran.
Quant au professeur d'université de l'Ange Bleu, lui, il aimait trop les dames. Alors, cette capitale, elle était centrale parce que, à cause de la Constitution, les impôts étaient perçus et distribués par Berlin, mais aussi parce qu'elle offrait beaucoup de charme.
Oui, alors Berlin, c'est la capitale artistique, intellectuelle de l'Europe, voire du monde dans les années 20. On a entendu l'Ange Bleu, on a entendu chanter Marlène Dietrich. C'est l'âge d'or du cinéma allemand. Les studios de Babelsberg sont bien devant les studios de Hollywood à l'époque en termes de qualité, voire parfois de quantité de production. C'est vraiment la Mecque des intellectuels, la Mecque également des non-conformistes. Lorsque vous êtes homosexuel, lorsque vous êtes intello, lorsque vous êtes de gauche, Berlin, c'est votre maison. Et d'ailleurs, Berlin va rester une ville de gauche, même après 1933. Les nazis vont déplorer jusqu'en 1945 de n'avoir jamais réussi à convertir le Berlin à la droite.
Tous ceux que vous venez de citer, et les universitaires en particulier, sont ingrats vis-à-vis de la République de Weimar. L'extrême gauche demeure irréductible. Les Prussiens, la droite des castes à l'ancienne, est radicalement hostile et il y a un rétrécissement peu à peu de la base politique de Weimar. Les partis dominants, ils font, comme aujourd'hui en France, 20%, 25%, ils sont obligés de se coaliser. Et du coup, ils font beaucoup de mécontentement, y compris chez leurs électeurs.
Mais après 1929 seulement, après le grand choc exogène, le grand choc externe de la crise économique, sinon Weimar était viable. Weimar a réussi à survivre à Versailles. Weimar a réussi à survivre aux troubles de ses premières années. Weimar était donc viable si jamais il n'y avait pas eu ce choc externe de 1929.
Ça, c'est vous qui le dites, mais dans le film L'œuvre du serpent de Bergman, j'y reviens une dernière fois, le docteur Vergerus, qui n'est pas un universitaire, mais qui est une sorte de mage et qui prédit l'avenir, conclut ainsi.
Regardez tous ces gens, incapables de la moindre rébellion, parce que trop humiliés, trop abattus. Mais dans 10 ans, ceux qui ont 10 ans en auront 20, ceux qui ont 15 ans, 25. À la haine héritée de leurs parents, s'ajouteront leur propre idéalisme, leur impatience. Parmi eux, une figure se détachera et mettra en forme leurs sentiments informes. Quelqu'un qui promettra un avenir, qui parlera grandeur et sacrifice. Des jeunes sans expérience apporteront leur courage et leur foi à ceux qui sont fatigués et hésitants. Et alors, notre monde s'écroulera dans le feu et le sang. Dans 10 ans, pas plus.
La prise de pouvoir par les nazis, c'est un phénomène de jeunes, en effet. Les trentenaires sont à l'honneur dans les cadres du parti, dans les cadres de l'État. Et de fait, on observe dans les années 20 que l'élite de la jeunesse, c'est-à-dire celle qui va à l'université, est très à droite, voire à l'extrême droite. Elle se réfugie dans le grand maelstrom des valeurs et des doutes contemporains, dans un nationalisme dit « folkish », c'est-à-dire raciste, qui la rassure.
Merci à vous, Johann Chapiteau. Votre dernier livre, Meurtre à Weimar, nous sommes à la fin de la République, là en 1932, et une bande de SA avinée règle son compte. Un malheureux ouvrier communiste en Silésie, c'est aux presses universitaires de France. La réalisation Jacques Sigal, la préparation Mérine Moneghetti, Franck Olivar, Frédéric Martin, Martin Penet. Demain, nous parlons de Jules César à la conquête de l'opinion, le césarisme. Un de vos maîtres livres, Johan Chapiteau, le nazisme et l'antiquité, mais il est plus question de la Grèce que de Rome.